Jacques Boulanger, Les romans de la table ronde, Merlin l'enchanteur. Chapitre 1. Parlement des ennemis. Très grande fut la colère de l'ennemi, quand Jésus, notre sire, fut venu en enfer et en eut fait sortir Ève et Adam, et tous ceux qu'il lui plut. Quel est celui-ci, qui nous surpasse tant que notre force ne peut rien contre lui ? Se demandaient les démons, étonnés. « Rappelez-vous, dit l'un d'eux, que les prophètes avaient annoncé depuis longtemps que le Fils de Dieu descendrait sur la terre pour sauver les enfants d'Ève et d'Adam. Et maintenant il est venu et nous a arraché ce que nous avions conquis. Désormais, il suffit que les hommes se lavent en une eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que nous n'ayons plus aucun droit sur eux, à moins que leurs œuvres ne nous les ramènent. Encore le Fils de Dieu a-t-il laissé des ministres qui ont pouvoir de les sauver de nous, quel que soit leur péché, pourvu qu'ils s'en repentent. De la sorte, nous avons tout perdu. » Alors un des ennemis reprit, « S'il y avait sur la terre un homme qui fût dévoué à nos intérêts autant que s'il était des nôtres, et qui fût doué de notre science des choses faites, dites et passées, il nous aiderait beaucoup à tromper les fils d'Ève et d'Adam, car il gagnerait sur eux une grande autorité. Or, n'est-il pas l'un de nous qui peut prendre semblance d'homme et féconder une femme ? Qu'il le fasse, et l'être engendré de lui, participant de notre nature, nous secondera puissamment. » Ainsi parlait l'ennemi. Mais il était bien folle quand il croyait que notre sire lui permettrait d'engénier à ce point l'homme de Jésus-Christ. Chapitre 2. La pucelle enseignée par le diable. Or, dit le comte, il était en ce monde une pucelle qui n'avait plus ni père ni mère, mais elle avait un confesseur, et elle croyait tous les conseils que lui donnait ce prud'homme. Aussi allait-elle dans la droite voie. C'est elle pourtant que l'ennemi choisit. Il lui envoya une vieille femme qui obéissait toujours à ses ordres. « Qu'il est triste de penser que votre beau corps engendré n'aura jamais de joie, » dit-elle à la pucelle. « Ah, si vous saviez le plaisir que nous avons quand nous sommes en compagnie de nos amis, n'eussions-nous que du pain à manger, nous serions plus aises que vous avec tout l'or du monde. Elle est à plaindre, la femme qui n'a commerce d'homme. » Quand la nuit fut venue et qu'elle fut se coucher, la pucelle regarda son beau corps et elle pensa que la vieille avait peut-être raison. Mais le lendemain, elle conta tout au prud'homme, qui lui montra que l'ennemi était autour d'elle. « Garde-toi surtout de te mettre en colère et de te désespérer, » lui dit-il. « Fais le signe de la croix en te levant et en te couchant, et prends garde d'avoir toujours de la lumière la nuit dans la chambre où tu dors, car le diable ne vient pas volontiers où il y a de la clarté. » Et quand l'ennemi sut les avis que le prud'homme donnait à la pucelle, il eut grand peur de la perdre, et il songea comment il pourrait la gagner. Elle avait une sœur cadette qui vivait mal et qui s'abandonnait à tous les hommes. Un samedi soir, la pucelle vit entrer cette fille dans son logis avec une troupe de garçons. Elle se mit en colère et la voulut jeter à la porte. Mais la cadette lui répondit qu'on voyait bien que son prud'homme l'aimait de fol amour, et qu'au reste, la maison était à la plus jeune autant qu'à l'aînée, et qu'elle n'en sortirait pas. Ce qu'entendant, la pucelle prit sa sœur par les épaules pour la pousser dehors, mais les garçons la battirent cruellement. Quand elle put leur échapper, elle se réfugia dans sa chambre et se mit à pleurer de tout son cœur dans l'obscurité. Alors l'ennemi lui remémora la mort de son père et de sa mère, si bien qu'elle désespéra tout à fait et finit par s'endormir de chagrin sur son lit sans lumière. Le diable vit ainsi qu'elle avait oublié tous les avis du prud'homme et il fut bien content. Il revêtit sa forme humaine et tandis qu'elle sommeillait, il s'approcha d'elle et il la posséda charnellement. Lorsqu'elle se réveilla, elle connut bien ce qui lui était arrivé et elle se signa en disant « Sainte Marie Notre-Dame, que m'est-il advenu ?» Puis elle se leva et chercha qui lui avait fait ce qu'elle pensait. Mais elle ne vit personne, et elle trouva sa porte fermée comme elle l'avait fermée. Ainsi sut-elle que le diable l'avait engeignée. Alors elle alla conter au prud'homme comment elle s'était trouvée au nid. Et il ne la voulut tout d'abord point croire, disant que c'était merveille et que jamais femme ne fut dépucelée sans savoir par qui. Mais, frappé par ses protestations, il lui prescrivit pour pénitence de ne manger jusqu'à sa mort qu'une seule fois le vendredi et de s'abstenir à toujours de luxure, hors celle qui vient en dormant, dont nul ne se peut garder. Et elle le lui promit, si bien que le diable comprit qu'il l'avait perdu, et il en fut très courroucé. Chapitre 3. Enfance de Merlin, l'enfant qui parle. Cependant, le temps vint où sa grossesse ne se put plus cacher, et les autres femmes, en regardant ses flancs, lui demandaient qui l'avait ainsi engrossé. Que Dieu me refuse une heureuse délivrance, si je le sais. Avez-vous donc connu tant d'hommes? Que Dieu ne m'accorde jamais d'être délivré, si un homme, à ma connaissance, m'a approché. Belle amie, disaient les femmes en se signant, sans doute vous aimez mieux que vous-même celui qui vous a fait cela, puisque vous ne le voulez accuser. Mais c'est grand dommage pour vous, car lorsque les juges le sauront, il vous faudra mourir. En ce temps-là, en effet, quand une femme était convaincue de débauche, si elle ne consentait à devenir fille commune, on en faisait justice. Aussi fut-elle bientôt appelée devant les juges. Mais comme ils pensèrent que l'enfant n'avait commis nulle faute et qu'il ne devait pas être puni pour le péché de sa mère, ils résolurent qu'elle ne serait pas jugée avant qu'il fût né. Ils l'enfermèrent dans une forte tour en compagnie de deux femmes, les plus sages qu'on pût trouver, pour l'aider le moment venu, et toutes les ouvertures furent murées, sauf une petite fenêtre au sommet, par où elle tirait au moyen d'une corde ce dont il était besoin. Et c'est là que la demoiselle eut son enfant, quand il plut à Dieu. En le recevant, les commères eurent grand-peur, parce qu'il était plus velu que jamais nouveau-né n'a été. Et lorsqu'elle le vit ainsi, la mère se signa et leur commanda de le descendre sur le champ pour qu'il fût baptisé. « Et quel nom voulez-vous lui donner ?»« Celui de mon aïeul maternel. » C'est ainsi qu'il fut appelé Merlin. Après quoi, on le rendit à sa mère pour qu'elle le nourrît, car nulle autre femme n'eût osé allaiter un enfant si poilu et qui, à 9 mois, semblait déjà âgé de 2 ans. Or, quand il fut sevré, les deux femmes déclarèrent à sa mère qu'elle ne pouvait demeurer dans la tour davantage. « Hélas, sitôt que vous serez sortie, on fera justice de moi. »« Nous n'en pouvons mais, » répondirent-elles. Sur quoi la mère se mit à pleurer amèrement et à se lamenter. « Beau fils, » disait-elle en prenant son enfant dans ses bras, « je recevrai la mort à cause de vous. » Et pourtant je ne l'ai pas mérité. Mais qui voudrait croire la vérité ?» À ces mots, le poupon la regarda en riant et lui répondit « Tu ne mourras pas de mon fait !» En entendant parler son enfant au maillot, la mère fut si ébahie qu'elle ouvrit les mains et le laissa choir. Il se mit à vagir et à hurler, et les commères accoururent, croyant qu'elle avait voulu le tuer. Mais elle les détrompa en leur expliquant la merveille. Alors elles prirent le poupon. Pourtant elles eurent beau l'interroger, elles n'en tirèrent mot. À la fin, sur le conseil de la mère, elles feignirent de la rudoyer et elles lui dirent durement « Quel malheur que votre beau corps doive être brûlé pour cette créature! Il vaudrait bien mieux que cet enfant ne fût jamais né. » « Vous mentez ! » cria tout à coup le nourrisson. « Et dites ce que ma mère vous fait dire. Laissez-la en paix. vous êtes plus folle et plus pécheresse qu'elle. Nul ne sera assez hardi, tant que je vivrai, pour faire justice d'elle. Hors Dieu !» Voilà les commères émerveillées à leur tour, qui s'empressent de courir à la fenêtre et d'annoncer aux gens du dehors la nouvelle du poupon qui parlait. Le bruit en vint tôt aux oreilles du juge, qui fit amener la mère pour la juger. Naturellement, elle eut beau lui répéter que nul homme ne l'avait approchée, il n'en voulut rien croire, et il allait la condamner, lorsqu'on entendit le petit Merlin qu'elle tenait dans ses bras s'écrier « Ce n'est pas de sitôt qu'elle sera brûlée, car si l'on condamnait au feu tous ceux et celles qui se sont abandonnés à d'autres que leurs femmes et leurs maris, il ne serait guère de gens ici qui n'y dussent aller. Je le ferais bien voir si je voulais, et je connais mieux mon père que vous le vôtre, et votre mère sait mieux de qui elle vous a conçu que la mienne ne sait qui m'a engendré. » À ces mots, le juge fut tout ébahi, mais en même temps fort courroucé, et il envoya quérir sa propre mère sur le champ, déclarant que, si Merlin ne prouvait ce qu'il osait avancer, il serait brûlé avec la sienne. « Si vous m'en croyez, dit l'enfant, vous laisseriez aller ma mère et ne feriez aucune enquête sur la vôtre. »
« Tu ne te sauveras pas si facilement, répliqua le juge.
« Mère, demanda-t-il quand la dame fut arrivée, ne suis-je le fils de votre loyal époux ?»«
Pardieu, beau fils, de qui seriez-vous donc né, sinon de mon seigneur qui est mort ?»«
Dame, dame, reprit l'enfant, il faut confesser la vérité. »
« Diable, Satan ! » fit la dame en se signant. « Est-ce que je ne la dis pas ?»«
Non, car vous savez bien que votre fils est né d'un prêtre, à telles enseignes que la première fois que vous vous unîtes à celui-ci, vous lui dites que vous craignez beaucoup d'être engrossé parce que votre mari était loin de vous à cette époque. Est-ce vrai ?»«
Beau fils, dit la dame, vas-tu croire ce que raconte ce diable ?»
« Si cela ne suffit pas, reprit l'enfant, je vous dirai encore ceci. Lorsque vous vous sentîtes grosse, le prêtre courut le pays à la recherche de votre époux et fit tenter si bien qu'il le décida à coucher avec vous, grâce à quoi votre seigneur ne douta point que l'enfant ne fût de son sang. » En entendant cela, la dame fut si troublée qu'elle dut s'asseoir. Son fils alors la regarda. « Quel que soit mon père, lui dit-il, je suis votre fils, et vous traiterez comme tel. Avouez donc la vérité.
Pour Dieu, beau fils, grâce, je ne le puis céder, il en a été comme cet enfant dit. »
Il avait donc raison de prétendre qu'il savait mieux quel était son père que moi quel était le mien, et il ne serait pas juste que je condamnasse sa mère quand je ne condamne pas la mienne. Mais, dit le juge à Merlin, « au nom de Dieu et pour ton honneur, et afin que je puisse disculper devant le peuple celle dont tu es né, déclare-moi qui t'a engendré. » « Eh bien, je suis le fils d'un ennemi qui trompa ma mère, et sache que ces ennemis ont nom Incube et habitent dans les airs. Dieu a permis que j'use leur science infuse et leur mémoire, et je sais comme eux les choses faites et dites et passées. Mais de plus, à cause de la bonté de ma mère, de son repentir et de sa pénitence, notre sire a permis que je connusse également les choses à venir. Ainsi puis-je te révéler que ta mère, en s'en alla, comptera au prêtre qui t'engendra ce que je t'ai dit. Et en apprenant que tu sais tout, il aura si grande peur qu'il s'enfuira, et le diable conduira à l'étang où il se noiera. Ainsi en advint-il. Cependant, la mère de Merlin se retira dans un monastère éloigné où elle vécut très saintement, et l'enfant grandit tranquillement auprès d'elle jusqu'à l'âge de 7 ans. Chapitre 4. Enfance de Merlin, la tour branlante. En ce temps-là, il y avait en Bretagne un roi du nom de Constant qui avait 2 jeunes enfants, appelés Moine et Uther Pendragon. Lorsqu'il mourut, son sénéchal fit traîtreusement mettre à mort le petit Moine et se fit couronner roi à sa place. mais il gouvernait si méchamment que son peuple le haïssait. Et comme il n'avait pu s'emparer du plus jeune fils du roi Constant, qu'un prud'homme avait emmené en une ville étrangère, nommée Bourges en Berry, il avait grand-peur que l'enfant ne revînt un jour le détrôner. Aussi résolut-il de faire bâtir une tour si haute et si forte qu'elle ne put jamais être prise. On se mit à l'œuvre, mais à peine la tour commençait-elle de s'élever à 3 ou 4 toises au-dessus du sol, elle s'écroula. Voltigé manda ses maîtres maçons et leur recommanda d'employer la meilleure chaux et le meilleur ciment qu'ils pourraient trouver. Ainsi firent-ils, mais une seconde fois la tour tomba, puis une troisième et une quatrième, si bien que tout le monde était ébahi et le roi très irrité. Il appela les plus sages clercs et astronomes de sa terre et il leur proposa le cas. Après en avoir délibéré durant 11 jours, ils prétendirent que la tour ne tiendrait jamais si l'on ne mélangeait au mortier le sang d'un enfant de 7 ans, né sans père. Aussitôt, le roi envoya 12 messagers par le monde qu'il chargea de ramener cet enfant. Un jour, 2 d'entre eux passèrent en un grand champ à l'entrée d'une ville où une foule de jeunes garçons jouaient à la crosse. Or, parmi ceux-ci était le petit Merlin, qui, sachant toute chose, connut bien ce que venaient chercher les messagers. Dès qu'il les vit, il s'approcha du fils de l'un des plus riches hommes de la ville et le frappa rudement de sa crosse à la jambe. L'enfant se mit à pleurer et à injurier Merlin en l'appelant « né sans père ». Aussitôt, les messagers s'approchèrent pour l'interroger. Mais, sans leur en laisser le temps, Merlin vint à eux en riant et leur dit « Je suis celui que vous quérez et dont vous devez rapporter le sang au roi Voltigé. »
« Qui t'a dit cela ?» demandèrent les messagers stupéfaits.
« Si vous me jurez que vous ne me ferez aucun mal, j'irai avec vous, et je vous dirai pourquoi la tour ne tient pas. Mais d'abord, je vais vous prouver que je sais bien d'autres choses. » Et il leur conta, sans manquer d'un mot, comment le roi Voltigère avait voulu bâtir une tour, et comment elle s'écroulait toujours, et ce qu'avaient dit les astronomes, puis comment eux-mêmes avaient été envoyés, et tout le reste, si bien que les messagers pensaient « Cet enfant nous dit merveille, et nous aimerions mieux être parjure tous les jours de nos vies et risquer de perdre nos biens que de le tuer. » Aussi Merlin, qui lisait dans leurs pensées, fut prendre congé de sa mère et partit de bonne grâce avec eux. Ils chevauchèrent de compagnie jusqu'à ce qu'ils arrivassent en une ville. Et comme ils en sortaient, ils virent un vilain qui portait de gros souliers et une pièce de cuir à la main. En passant près de lui, Merlin se mit à rire, et comme ses compagnons lui demandaient pourquoi, il leur dit « Parce que ce vilain qui pense avoir à réparer ses chaussures en faisant son pèlerinage sera mort avant que d'arriver à sa maison. » Les messagers interrogèrent l'homme qui leur répondit qu'il venait d'acheter ses souliers au marché et le cuir pour les raccommoder quand ils seraient usés, car il voulait aller en Terre Sainte. Étonnés, les messagers le suivirent et ils n'avaient pas fait une lieue qu'ils le virent tomber mort. Alors ils songèrent, chacun par soi, « Il nous vaudrait mieux souffrir 1000 supplices que d'oxyre un si sage enfant. » Et Merlin, qui sut leurs pensées dans le même instant, les remercia de leur bonne résolution. Chapitre 5. Voltigé et les dragons. Cependant, ils approchaient de la cour du roi Voltigé. Quand ils n'en furent plus qu'à 1 heure de route, ils demandèrent à Merlin ce qu'il dirait au roi. « Contez-lui ce que vous avez vu, leur conseilla-t-il, et assurez-lui que je lui enseignerai pourquoi sa tour s'écroule toujours. » Ce qu'ils firent, et le roi émerveillé commanda qu'on lui amenât Merlin. Celui-ci le salua le plus poliment du monde. « Roi Voltigé, tu veux savoir pourquoi ta tour ne peut tenir? C'est qu'il y a dessous la terre, à l'endroit où elle s'appuie, 2 dragons qui ne voient goutte, l'un roux et l'autre blanc, qui dorment sous 2 grandes pierres.
Quand ils sentent le poids de la tour, ils se tournent et elle croule. Si ce que je dis est faux, condamne-moi au feu. Si c'est vrai, accuse tes clercs et tes astronomes qui prétendent connaître tout et ne savent rien. » Aussitôt, le roi fit rassembler les ouvriers du pays pour creuser la terre, lesquels travaillèrent si bien qu'on mit à jour les deux grandes pierres qu'avait annoncées Merlin. Et dès qu'on en eut soulevé la première, un dragon blanc apparut, si grand, si fier et si hideux, que tout le monde se hâta de reculer. Puis, sous la seconde, on découvrit un dragon roux, qui sembla encore plus grand et plus sauvage. Et tous deux ne tardèrent pas à s'éveiller et à se jeter l'un sur l'autre, en se déchirant horriblement des dents et des griffes. La bataille dura tout le jour, toute la nuit et le lendemain, jusqu'à l'heure du midi. Longtemps, le blanc eut le dessous. Mais à la fin, il lui sortit une flamme de la bouche et des narines qui consuma le roux. Après quoi, le vainqueur se coucha et mourut à son tour. Et Merlin dit au roi que maintenant, il pouvait faire bâtir sa tour. « Mais, demanda celui-ci, il faut que tu nous apprennes ce que signifie la lutte des deux dragons. Promets-moi donc, sur ta foi, qu'il ne me sera fait aucun mal. » Le roi promit. « Je te dirai que le dragon roux signifie toi, et le blanc, le fils du roi Constant, auquel tu as volé son héritage. Et si les deux dragons luttèrent longtemps, c'est que tu tiens depuis longtemps le royaume que tu as pris. Et si le blanc a brûlé le roux, c'est qu'Uther Pendragon, le fils du roi, te fera brûler toi-même. Dans 3 jours, il débarquera au port de Winchester. » À ces mots, le roi fut très effrayé. Il s'empressa d'envoyer une armée à Winchester. Mais lorsque ces gens virent les gonfanons d'Uther Pendragon sur la nef qu'il amenait, ils s'empressèrent de le reconnaître pour leur droit seigneur. De sorte que Voltigère n'eut que le temps de gagner un de ses châteaux avec un petit nombre de serviteurs. Il résista là quelque temps. Mais, en donnant l'assaut, Uther Pendragon mit le feu à la forteresse et Voltigère périt dans les flammes. Ainsi en soit-il de tous les déloyaux. Chapitre 6. Jeu de Merlin. Le conte dit ici que Merlin s'était retiré dans la forêt de Northumberland. Or, le roi Uther Pendragon, à qui l'on narra les merveilles qu'il avait faites, eut naturellement grand désir de le voir. Aussi envoya-t-il des messagers par toute la terre à la recherche du devin. Un jour qu'il se reposait dans une ville du Northumberland, ils virent venir à eux un bûcheron, portant une grande cognée sur l'épaule, les cheveux hirsutes, la barbe longue, vêtu d'une courte blouse déchirée. Bref, assez semblable à un homme sauvage, qui leur dit « Vous ne faites guère la besogne de votre seigneur. » « De quoi se mêle ce vilain ?»« Si j'étais chargé de chercher Merlin, reprit le bûcheron, je l'aurais plutôt trouvé que vous. Sachez qu'il m'a commandé de vous dire que jamais personne ne l'amènera, à moins que votre roi ne vienne lui-même le quérir dans la forêt. » Là-dessus, l'homme leur tourna le dos et disparut, bien avant que les messagers fussent revenus de leur surprise. Ils retournèrent en grande hâte à la cour et contèrent au roi ce que le vilain leur avait dit. « J'irai donc chercher le devin, » décida Uther Pendragon. Ainsi vint-il avec eux dans la forêt de Northumberland. Elle était grande, haute et délicieuse à y errer. Le roi et ses gens cherchèrent longtemps à travers feuilles et buissons. Enfin, ils parvinrent à une clairière où un pauvre berger contrefait gardait un troupeau de moutons. « Qui es-tu ? » lui demandèrent-ils. « Je suis un homme qui m'a dit qu'un roi le viendrait aujourd'hui chercher au bois, et si le roi venait, je saurais bien le mener à celui qu'il va quérant. » « Et ne nous pourrais-tu conduire à lui ?»« Ni, répondit le berger, « ni pour or ni pour argent. » car on ne le trouve que lorsque lui-même il y consent. « Je suis le roi, » dit Uther Pendragon. Et moi, je suis Merlin, dit le berger. Le roi demanda à ses compagnons s'ils reconnaissaient Merlin, bien qu'ils ne l'eussent pas vu depuis longtemps. Pour toute réponse, ils se mirent à rire. Mais dans le même instant, ils trouvèrent devant eux le jeune enfant qui avait expliqué au roi Voltigé la signification du combat des dragons. Et ainsi l'on connut que Merlin avait le pouvoir de prendre telle semblance qui lui plut. Le roi lui fit de grandes amitiés et voulut l'emmener à sa cour. Mais il refusa, pour ce qu'il savait bien que les barons seraient tôt jaloux de son crédit, car il était très sage. Pourtant, il assura le roi qu'il l'aimait tendrement et qu'il veillerait toujours sur son honneur et ses intérêts. En effet, grâce à lui, Uther vainquit les Saines, païens très méchants qui ne croyaient pas à la Trinité ni à Jésus-Christ, qui pour nous souffrit. Après la bataille, on enterra les corps des chrétiens et Merlin fit venir d'Irlande, par son art, certaines longues et grosses pierres que nul homme n'aurait pu soulever par force ni par engin, et qu'il dressa, parce qu'elles étaient plus belles droites que gisant. Ainsi fut fait le cimetière de Salisbury, que l'on voit encore et que l'on verra tant que le monde durera. Chapitre 7. La duchesse de Tintagel. Après sa victoire, le roi fit annoncer dans tout son royaume qu'il tiendrait régulièrement sa cour à Carduel, en Galles, tous les ans, à la Noël, à la Pentecôte et à la Toussaint, et que ses barons étaient invités à s'y rendre sans autre avertissement. Il y vint ainsi une grande quantité de dames, de chevaliers et de demoiselles, et le roi y remarqua Igerne, la femme du duc Hoël de Tintagel. Il n'en fit d'abord nul semblant, si ce n'est qu'il la regarda plus longtemps que les autres, mais elle s'en aperçut bien. Comme elle était aussi fidèle que belle, elle garda du mieux qu'elle put de paraître devant lui. Mais le roi envoya des joyaux en présent à toutes les dames afin d'avoir prétexte à lui en donner, de manière qu'elle ne pût les refuser. Enfin, quand la cour se sépara, il accompagna le duc de Tintagel et trouva moyen de murmurer à Igerne qu'elle emportait son cœur. Elle feignit de n'avoir pas entendu. Au cours suivante, le roi ne fut pas plus heureux. Durant un an, il souffrit. Quand il était loin de la duchesse, il était triste à mourir. Quand il la voyait, sa douleur s'allégeait un peu, mais il lui semblait qu'il ne pourrait vivre s'il n'avait réconfort d'amour. « Sire, lui dit Ulfin, un de ses familiers, vous êtes bien naïf quand vous pensez mourir pour le désir d'une femme. Moi qui suis un pauvre homme au prix de vous, si j'aimais comme vous faites, je ne songerais pas à trépasser. Qui entendit jamais parler d'une femme qui se pût défendre si elle était bien priée et honorée de beaux joyaux? Laissez-moi faire. » Et il commença de porter à la duchesse maints présents magnifiques de par le roi. Mais elle se défendait d'en rien prendre, si bien qu'un jour il lui dit « Dame, ces joyaux que vous refusez sont peu de choses quand tous les biens du royaume de l'ogre sont à votre volonté et tous les corps de ses habitants à votre plaisir. » « Comment ? » fit-elle. « Parce que vous avez le cœur de celui à qui tous les autres obéissent. » « De quel cœur parlez-vous ? » « De celui du roi. » Igerne leva la main et se signa. « Dieu ! Que le roi est traître de faire semblant d'aimer monseigneur le duc et moi, et cependant de me vouloir honnir. Garde-toi de me redire de telles paroles, ou j'avertirai le duc, et il te fera mourir. » « Ce serait mon honneur que de mourir pour mon roi, » répondit Ulfin. « Dame, pour Dieu, ayez merci du roi et de vous-même, sinon il adviendra grand mal de cela. Ni vous ni le duc ne vous pourriez défendre contre sa volonté. » « S'il plaît à Dieu, » répliqua Igerne en pleurant, « je n'irai plus jamais en lieu où il me puisse voir. » Ainsi fit-elle, tant qu'elle le put. Mais Le 11e jour après la Pentecôte, le roi prit le duc par la main et le fit asseoir à table auprès de lui. Puis il lui dit en lui montrant une coupe d'or. « Beau sire, mandez à Igerne, votre femme, qu'elle accepte cette coupe que je lui envoie pleine de bon vin, et qu'elle la vide pour l'amour de moi. »
« Sire, grand merci !» répondit le duc qui ne pensait pas à mal.
Et l'un de ses chevaliers, nommé Bretel, se rendit par son ordre en la chambre où Igerne mangeait avec les autres dames. Et, s'agenouillant devant la duchesse, il lui fit le message de son seigneur. Elle rougit. Pourtant, n'osant refuser, elle but et voulut renvoyer la coupe.
« Madame, lui dit Bretel, messire a commandé que vous la gardiez. Le roi l'en a prié. »
Puis il revint au roi et lui rendit grâce de la part de la duchesse, qui pourtant n'avait sonné mot de remerciement. Le soir, lorsque le duc rentra à son hôtel, il trouva Igerne qui pleurait. Étonnée, il la prit dans ses bras.
« Ah ! Dit-elle, je voudrais être morte. »
« Dame, pourquoi ?
Je ne vous le scellerai point, car il n'est rien que je chérisse comme vous. Le roi dit qu'il m'aime, et toutes ses fêtes, il ne les donne que pour l'amour de moi. Pourtant, des présents qu'il m'a envoyés, je n'en ai accepté aucun, hormis cette coupe que vous m'avez fait prendre. Je vous prie et requiers, comme mon seigneur, de me ramener à Tintagel. »
En entendant cela, le duc, irrité, manda sur-le-champ à ses chevaliers de se préparer sans bruit et de quitter la ville dans la nuit même, quitte à laisser tout leur bagage, qui les suivrait le lendemain. Chapitre 8. Naissance d'Artus. Au matin, le roi apprit le départ d'Igerne à grand chagrin. Il réunit ses barons en conseil et se plaignit amèrement de l'insulte que lui faisait son vassal. Il fut décidé qu'on enverrait au duc deux prud'hommes chargés de lui remontrer son insolence et de l'inviter à revenir à la cour. Mais le duc s'y refusa, disant seulement que le roi lui avait forfait. Aussitôt, Uther Pendragon requit ses barons de l'aide à venger son honneur et à punir la folie de son homme Lige. De son côté, le duc avait révélé aux siens la honte que le roi voulait lui infliger. Et ils étaient venus s'enfermer avec leur seigneur dans le plus fort de ses châteaux. La place était si bien défendue qu'Uther Pendragon ne put s'en emparer d'assaut. D'ailleurs, il apprit qu'Igerne ne s'y trouvait pas, car elle était demeurée à Tintagel sous la garde de quelques chevaliers dévoués. Que faire ? Lever le siège, il n'y fallait pas songer. Ses barons n'eussent pas songé qu'il renonçât à saisir le rebelle. Un jour que le roi se lamentait sous sa tente, Ulfin lui dit « Sire, que demandez-vous, Merlin ?»«
Hélas !» répondit le roi. « Il sait bien que j'ai perdu le boire et le manger, et le dormir, et le repos, et qu'il me faudra mourir d'amour. Pourtant il ne vient pas. Sans doute ne me pardonne-t-il point de vouloir prendre la femme de mon homme Lige. Est-ce ma faute, pourtant, si mon cœur ne peut s'arracher d'Igerne ?»
Comme il disait ces mots, Merlin lui-même entra dans la tente. Le roi, plus content qu'on ne saurait dire, le prit dans ses bras et l'accola très doucement.
« Doux ami, dit-il, jamais je ne souhaitais la venue de nul homme autant que la vôtre. Vous savez bien ce que mon cœur désire, puisque je ne pourrais mentir que vous ne le connussiez aussitôt.
« Je le sais, dit Merlin, et si vous m'osiez promettre un don, je vous ferai avoir l'amour de la duchesse et coucher avec elle en son lit.
« Ah ! Vous pouvez tout me demander !»
Alors Merlin lui fit faire un serment sur les meilleures reliques qu'on put trouver. Puis ils montèrent à cheval avec Ulfin et partirent secrètement pour Tintagel. Peu avant d'arriver au château, Merlin s'arrêta et descendit de son palefroi. Après avoir un peu cherché, il cueillit une herbe et dit à Ulfin de s'en frotter le visage et les mains. Tout aussitôt, celui-ci prit la semblance de Jourdain, l'un des plus fidèles serviteurs du duc. Le roi s'émerveilla fort. Mais, s'étant oint de cette herbe à son tour, il devint tout pareil au duc lui-même, tandis que Merlin prenait la figure de Bretelle. Ainsi fait, ils se présentèrent devant la porte du château, où le guetteur, qui les reconnut bien tous trois, les fit entrer. Il était nuit. Le faux duc se rendit à la chambre d'Hygerne, qui était déjà couchée. Là, ses deux compagnons le dévêtirent, et la duchesse lui fit bel accueil, croyant que ce fut son mari qu'elle aimait fort. Et ainsi fut engendré le bon seigneur, qu'on appela Artus. Au matin, tous trois s'en partirent comme ils étaient venus, et Merlin les fit laver et se lava lui-même dans une rivière où ils reprirent leurs apparences naturelles. Ensuite, il dit au roi, « Sire, je vous ai fait avoir ce que je vous avais promis. À vous maintenant d'exécuter votre serment. Sachez que vous avez engendré un fils en Hygerne. Je veux que vous me le donniez. » « Je ferai tout, » dit le roi, « ainsi que je m'y suis engagé. » En revenant au camp, on apprit que le duc avait tenté une sortie et que son cheval ayant été abattu, il avait été tué par les gens de pied qui ne l'avaient pas reconnu. Tous les barons en étaient chagrinés, car ils estimaient que la mort était un châtiment trop grave pour la faute du duc. Aussi, le roi les assembla-t-il et leur demanda comment ils pourraient réparer ce méchef. Ils furent d'avis qu'il convenait de convoquer tout d'abord les parents du duc de Tintagel afin de chercher un accommodement. Ainsi fut fait. Et quand la dame de Tintagel fut venue avec les siens, une nouvelle assemblée se fit des barons du royaume. Et tous prièrent Ulfin, qui était très sage, de donner son avis. « Le duc est mort par la force du roi, » dit-il. « Mais quels que fussent ses torts, il n'avait pas commis de forfait tel qu'il dût en être puni de mort. Sachez cependant que sa femme demeure chargée d'enfants. Le roi a détruit et gâté sa terre, la lésant ainsi, de même que les héritiers et parents du duc. » Il est juste qu'il répare une partie de ses dommages. Il doit prendre la duchesse pour femme et marier la fille aînée du duc au roi Lodorcani, si celui-ci y consent. Les paroles d'Ulfin furent fort louées. Tous les barons se rangèrent à son avis. Et le roi d'Orcani dit qu'il épouserait volontiers la fille du duc de Tintagel. Et tous se tournèrent vers la duchesse, à qui l'eau de son cœur montait aux yeux et qui ne répondit rien. Mais tous ses parents dirent que jamais seigneur n'avait fait à son homme lige une paix plus équitable. Et 30 jours plus tard eurent lieu les noces du roi Uther Pendragon et d'Hygerne. Or, quand la grossesse de celle-ci apparut, elle confessa en pleurant à son seigneur comment un homme l'était venu visiter après la mort du duc, qui ressemblait si fort à celui-ci qu'elle l'avait pris pour lui. « Belle amie, dit le roi, gardez que personne à qui vous la pouvez sceller ne connaisse votre grossesse, car ce serait grande honte à moi et à vous si l'on savait que vous avez eu un enfant si tôt. Nous le confierons à quelqu'un qui l'élèvera bien. » Et quand l'enfant fut né, il le donna à Merlin, qui le remit secrètement à l'un des plus honnêtes chevaliers du royaume, nommé Antor, dont la femme avait accouché 6 mois auparavant. Elle confia son propre fils à une nourrice et allaita celui qu'on lui amenait. Puis, le moment venu, Antor fit baptiser l'enfant sous le nom d'Artus et l'éleva en tout honneur et bien, en compagnie de son propre fils, qu'on appelait Que. Chapitre 9. Le Perron Merveilleux. Uther Pendragon mourut 16 ans plus tard, à la Saint-Martin, 2 ans après Hygerne. Comme il ne laissait point d'enfants connus, les barons s'assemblèrent et prièrent Merlin de leur désigner l'homme qu'il devait élire afin qu'il gouvernât le royaume pour le bien de la Sainte Église et la sûreté du peuple. mais il se contenta de leur dire qu'ils attendissent le jour de la naissance de notre Seigneur, et jusque-là, d'implorer Dieu pour qu'il les éclairât. La veille de Noël, donc, tous les barons du royaume de l'Ogre vinrent à Londres, et parmi eux, Antor, avec Queux et Artus, ces deux enfants dont ils ne savaient lequel ils préféraient. Chacun assista à la messe de minuit en grande piété, puis à la messe du jour, et comme la foule sortait de l'église, des cris d'étonnement retentirent. Une grande pierre taillée gisait au milieu de la place, naguère vide, portant une enclume de fer, où une épée se trouvait fichée jusqu'à la garde. On avertit aussitôt l'archevêque qui vint avec de l'eau bénite, et en se baissant pour asperger la pierre, il déchiffra à haute voix cette phrase qui s'y trouvait gravée en lettres d'or. « Celui qui ôtera cette épée sera le roi élu par Jésus-Christ. » Déjà les plus hauts et riches hommes commençaient de contester entre eux à qui tenterait l'épreuve le premier. Mais l'archevêque leur dit « Seigneur, vous n'êtes point aussi sage qu'il faudrait. Ne savez-vous point que notre sire n'a souci de richesse, ni de noblesse, ni de fierté ? Seul, celui qui l'a désigné réussira. Et s'il était encore à naître, l'épée ne serait jamais ôtée devant qu'il vint. » Alors il choisit lui-même 250 prud'hommes pour tenter l'aventure tout d'abord. Mais aucun ne parvint à mouvoir l'épée. Après eux, et dans la semaine qui suivit, tous ceux qui voulurent s'y efforcèrent, mais vainement. Et l'on atteignit ainsi le jour des étrennes. Ce jour-là, on donnait chaque année un grand tournoi aux portes de la cité. Quand les chevaliers eurent assez jouté, ils firent une telle mêlée que toute la ville en courut voir le spectacle. Que, le fils d'Antor, qui venait d'être fait chevalier à la Toussaint précédente, appela son jeune frère et lui dit « Va chercher mon épée à notre hôtel. » Artus était un bel et grand adolescent de 16 ans, fort aimable et serviable. Il piqua des deux aussitôt vers leur logis, mais il ne put trouver l'épée de son frère ni aucune autre, car la dame de la maison les avait toutes rangées dans une chambre, et elle était allée voir la mêlée. Il revenait, lorsqu'en passant devant l'église, il pensa qu'il n'avait pas encore fait l'essai. Aussitôt, il s'approche du perron, et sans même descendre de cheval, il prend le glaive merveilleux par la poignée, le tire sans la moindre peine, et la porte sous un pan de manteau à son frère, à qui il dit « Je n'ai pu trouver ton épée, mais je t'apporte celle de l'enclume. » Que la saisit sans sonner mot et se mit à la recherche de son père. « Sire, lui dit-il en le joignant, je serai roi. Voici l'épée du perron. » Mais Antor, qui était vieil et sage, ne le crut guère et n'eut pas beaucoup de peine à lui faire confesser la vérité. Alors il appela Artus et lui commanda d'aller remettre le glaive où il l'avait pris. L'enfant replongea la lame dans l'enclume aussi aisément qu'il eût fait dans la glaise. Ce que voyant, le prud'homme l'embrassa. « Beau fils, si je vous faisais élire roi, quel bien m'en reviendrait ?»« Sire, répondit Artus, je ne saurais avoir rien dont vous ne soyez maître, étant mon père. » « Cher sire, je suis votre père adoptif, mais non celui qui vous a engendré. J'ai confié mon propre fils à une nourrice pour que sa mère vous nourrit de son lait, et je vous ai élevé aussi doucement que j'ai pu. » « Je vous supplie, dit Artus, de ne pas me renier comme votre fils, car je ne saurais où aller. Et si Dieu veut que j'aie cet honneur d'être roi, vous ne saurez me demander chose que vous ne l'ayez. » « Eh bien, je vous demande qu'en récompense de ce que j'ai fait pour vous, que soit votre sénéchal tant que vous vivrez, et que, quoi qu'il fasse, il ne puisse perdre sa charge. S'il est folle, s'il est félon, vous vous direz que peut-être il ne lui point été s'il avait été allaité par sa propre mère et non par une étrangère, et que c'est peut-être à cause de vous qu'il est ainsi.
Je vous le promets, dit Artus.
Et Antor lui en fit faire le serment sur l'autel. Il attendit Vêpres, et quand tous les barons furent assemblés dans l'église, il alla trouver l'archevêque et lui demanda de permettre que son plus jeune fils, qui n'était pas encore chevalier, fit l'essai. Et Artus s'avança, ôta l'épée sans peine et la bailla à l'archevêque qui entonna à pleine voix le Te Deum Laudamus. Cependant les barons murmuraient, disant qu'il ne se pouvait qu'un garçon de si bas lignage devint leur seigneur, dont l'archevêque se courroussa et leur dit que Dieu savait mieux qu'eux-mêmes ce que valait chacun. Pourtant, il commanda à Artus de replacer l'épée dans l'enclume, puis il dit aux mécontents de recommencer l'épreuve. Et tous essayèrent une fois de plus, mais nul ne réussit. « Ils sont bien fous ceux qui vont contre la volonté de Dieu !» s'écria le prélat. « Sire, dirent les barons, nous n'allons point contre sa volonté, mais il nous est trop grande merveille qu'un homme de si basse condition devienne ainsi notre seigneur. Nous vous demandons que vous laissiez l'épée au perron jusqu'à la chandeleur. » L'archevêque y consentit, mais ce jour-là encore, nul d'entre eux ne put l'arracher. « Allez, beau fils Artus, dit alors l'archevêque, si notre sire veut que vous gouverniez ce peuple, baillez-moi ce glaive. » Aussitôt Artus se leva et tira l'épée sans plus d'effort que si elle eût été enfoncée dans une motte de beurre. Le peuple pleurait de joie et de pitié. Mais les barons réclamèrent qu'on recommençât l'épreuve à Pâques. Quand Pâques furent venus, il en alla tout de même. Alors ils se résignèrent à reconnaître le fils d'Antor pour l'élu de Dieu. Pourtant, ils exigèrent encore que son sacre fût reculé jusqu'à la Pentecôte. Ce jour-là, Artus s'agenouilla une dernière fois devant le perron, puis il prit l'épée dans ses mains jointes et la leva très facilement. Alors il la porta toute droite à l'autel et la posa dessus. Puis il fut oint et sacré. Et quand la messe fut chantée, on vit, en sortant de l'église, que le perron merveilleux avait disparu. Chapitre 10. Les princes rebelles. Quelque temps après son sacre, le roi Artus tint une grande cour à Caerléon. 11 des plus hauts barons de la couronne de l'Ogre y vinrent avec leurs chevaliers. Lot, roi d'Orcanie, Urien, roi de Gore, Idier, roi de Cornouailles, Nantre, roi de Garlot, Carados Biebra, Bélinan, roi de Sorgal, et son frère Tradelinan, roi de Norgal, Clarion, roi de Northumberland, Brangor, roi d'Estrangor, Agustan, roi d'Écosse, et le duc Escan de Cambenic. Et Artus leur fit aussi bel accueil qu'il put et les combla de présents. Mais, quand ils virent qu'il leur donnait de si riches joyaux, ils le prirent à grand dédain. Bientôt ils lui signifièrent qu'ils ne pouvaient tenir pour leur seigneur un homme d'aussi bas lignage que lui. Artus était sur ses gardes. Il s'enferma aussitôt dans la forteresse de Caerléon, et les rois et lui demeurèrent ainsi 15 jours à s'entre-surveiller. Au bout de ce temps, on vit arriver Merlin, qui se montra à tout le peuple comme celui qui veut être reconnu. Après quoi il se présenta devant les rebelles, ouvert et joyeux à son ordinaire. Ils lui firent grand accueil et lui demandèrent ce que c'était que ce nouveau roi que l'archevêque prétendait leur imposer. « Beau seigneur, répondit-il, l'archevêque a bien fait, et sachez qu'il n'est pas fils d'Antor et frère de Queux, mais de plus haute naissance qu'aucun de vous. « Comment ? Que nous dites-vous ? Mandez-le devant vous, ainsi qu'Ulfin et Antor, et vous saurez la vérité. » Étonnés, les barons envoyèrent Bretel, muni d'un sauf-conduit, et Artus consentit à venir en compagnie de l'archevêque et d'Antor, non sans avoir passé sous sa cotte un court et léger aubergeon par précaution. Quand il entra, Les barons se levèrent devant lui parce qu'il était roi sacré, et devant l'archevêque parce qu'il était saint et de bonne vie. Mais, à peine furent-ils assis, l'homme de Dieu commença de les supplier au nom de notre Seigneur de prendre en pitié la chrétienté et de leur rappeler que, riches ou pauvres, ils n'étaient que des hommes soumis à la mort. « Sire, firent-ils sans le laisser achever, souffrez un peu que nous écoutions Merlin. Ensuite, vous retrouverez bien votre sermon. » Merlin se mit donc debout et leur conta tout au long l'histoire d'Uther Pendragon et d'Igerne. Puis il invoqua le témoignage d'Ulfin et d'Antor. Enfin, il exhiba des lettres scellées que le défunt roi avait fait faire de tout cela. En l'écoutant, le menu peuple qui était dans la salle commença de pleurer d'attendrissement et de maudire ceux qui voulaient nuire au fils d'Uther Pendragon. Mais les barons, après avoir un peu hésité, déclarèrent qu'ils ne consentiraient jamais à tenir leur fief d'un bâtard. Et, comme Merlin leur représentait qu'il se trouverait mal d'aller contre la volonté de notre Seigneur, qui avait lui-même élu Artus, ils se moquèrent de lui, disant « Il a bien parlé, l'enchanteur !» Enfin, ils firent assembler leurs bannières pour donner sans tarder l'assaut au château. Artus, qui était revenu s'y enfermer, avait avec lui une grande multitude de menu peuple, mais seulement une poignée de chevaliers. En entrant, il prit Merlin par la main et, le tirant à part avec l'archevêque, Ulfin, Antor, Queue et Bretelle, il lui demanda son avis. « Beau sire, dit Merlin, faites armer vos gens et attendez derrière la porte, et quand je crierai « Maintenant, à eux !» Sortez hardiment et laissez courir les chevaux. » Alors, l'archevêque monta sur le mur et excommunia tous ceux qui voudraient méfaire au roi. Puis Merlin, du sommet de la tour, jeta un enchantement tel que toutes les tentes et pavillons des barons rebelles se mirent à flamber. Quand il les vit ainsi en feu, il donna son signal. La porte s'ouvrit brusquement, et le roi Artus et les siens chargèrent aussi vite que leurs chevaux purent galoper, la lance basse et l'écu devant la poitrine, si bien qu'ils mirent d'abord le désordre dans les rangs de l'ennemi surpris. Cependant, le roi Nantre, qui était grand, fort et membru à merveille, se dit que s'il tuait Artus, la guerre serait au fait. Il prend une lance peinte, courte, roide et grosse, à faire tranchant, et charge à toute allure le roi. Le voyant venir, Artus broche à son tour et s'assure sur ses étriers. De sa lance de frêne, il heurte le roi Nantre avec tant de force qu'il lui perce son écu et le porte à terre, par-dessus la croupe de son destrier, si durement que toute la terre en résonne. Mais les gens du roi Nantre se précipitent à son secours et le remettent à cheval. Ceux du roi Artus viennent aider à leur seigneur, il se fait une mêlée furieuse. Sa lance brisée, Arthur tire son épée, celle qu'il avait arrachée du Perron Merveilleux. Elle s'appelait Escalibor, qui signifie en hébreu « tranche de fer et acier », et elle jetait autant de clarté que deux cierges allumés. Le roi la brandit et commence de frapper à dextre et à sénestre, si vivement qu'il semble entouré d'éclairs, et à faire de si grandes prouesses que nul n'ose l'attendre et que tous l'évitent. Voyant cela, six des rois s'accordent pour le charger ensemble, et ils le renversent avec son cheval. Mais Queue, Bretelle, Antor, Ulfin et leur lignage accourent à la rescousse. Queue se jette sur le roi Lot, lui décharge un tel coup sur son aume qu'il l'abat sur l'arçon, le frappe, le refrappe, s'acharne et le fait tomber à bas de son destrier, tout étourdi. À ce moment, la foule du menu peuple se précipitait à son tour dans la mêlée, armée de haches, de masses, de bâtons, si bien que l'ennemi commença de plier sous le nombre et de fuir. Fort échauffé, Artus, remonté par les siens, se jette à la poursuite et fait merveille d'Excalibur, au point que sur ses armes rouges de sang, on ne voit plus couleur ni vernis. Semblable à une statue vermeille, il atteint le roi Idier. Déjà il hausse l'épée pour le ferrir sur son aume, mais son cheval l'emporte plus loin qu'il n'aurait fallu, si bien que le coup, frôlant l'homme, tombe sur le destrier et lui tranche le cou. Idier tombe à terre. Ses gens le dégagent, le remontent à grand-peine. Enfin les 11 rois s'échappent, rudement pourchassés, laissant sur le terrain tout leur bagage et leur vaisselle d'or et d'argent. Chapitre 11. Départ pour la Carmélide. Quand le roi Artus eut ainsi déconfié ses grands vassaux rebelles, il tint une cour à Londres sur le conseil de Merlin, où il fit de beaux dons de robes, d'argent, de chevaux, et arma nombre de nouveaux chevaliers, par quoi il se gagna beaucoup de cœur. « Beau doux sire, lui dit Merlin, maintenant, contentez-vous de garnir vos forteresses et de les munir de vivres et d'artillerie. Cependant, vous irez vous engager comme un simple chevalier au service du roi Léo Dagan de Carmélide, et grand bien vous en adviendra. C'est un vieil homme, et il a rude guerre de ses voisins. Car le roi Clodas de la terre déserte a rendu hommage à l'empereur de Rome, Julius César, et tous deux ont fait alliance avec Frol, duc d'Allemagne, qui est un haut et puissant baron. Et une grande armée s'avance sous leur bannière pour conquérir le royaume de Carmélide. Ne craignez rien, cependant, des rois rebelles pour votre terre, car notre sire y aura garde. À votre cour, les uns sont venus pour bien et les autres pour mal. Mais je veux que vous fassiez grand accueil à Ban de Benoïc et à Bord de Gannes, qui sont en route à cette heure et qui se rendent ici par débonnaireté. Tous deux sont frères et rois en la Petite-Bretagne, et ils vous feront hommage volontiers. Quand vous partirez pour Caroès en Carmélide, emmenez-les avec vous, car ils sont prud'hommes et très bons chevaliers. » Dès qu'il apprit que le roi Ban et le roi Bohor approchaient, Artus fit tendre de soieries et de tapisseries et joncher d'herbes et de fleurs les rues de Londres où il devait passer, et il ordonna que les demoiselles et les pucelles de la ville allassent en chantant à leur rencontre, tandis que lui-même s'y rendait à grande chevalerie. Puis il donna en leur honneur un beau tournoi, des fêtes. Bref, il les reçut aussi magnifiquement qu'il put. Si bien que les rois Ban et Bohor, et leur frère Guinebeau, qui était un très sage et savant clerc, furent contents. Quand il les vit ainsi, Merlin leur demanda d'accompagner Artus en Carmélide, pour le plus grand bien de la couronne de l'ogre. « Mais, beaux doux amis, lui répondit le roi Ban, si nous laissons nos royaumes, qu'arrivera-t-il? Nous avons des voisins félons, et il est bien périlleux de quitter ainsi sa propre terre pour aller défendre celle d'autrui. « Ah, sire, dit Merlin, il est bon de reculer pour sauter loin. Sachez que pour un denier que vous perdrez ici, vous en gagnerez 100 là-bas. Quelques coureurs qui pourront venir sur vos terres ne vous prendront ni un château ni une ville, et le royaume de Carmélide défendra ensuite celui de l'ogre et les vôtres à toujours. « Je ferai ce que vous me conseillez, dit le roi Ban, car vous êtes plus sage que nous tous. » Mais maintenant, le conte se tait du roi Artus et des rois Ban et Bohor, et on vient à parler de l'empereur de Rome et du jeu de Merlin quand il quitta la Bretagne bleue et s'en fut dans les forêts de Romanie. « C'est une chose digne d'être racontée à vous, seigneurs et dames. »